الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 105 dans le livre التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم du Cheikh Ibn Taymiyyah, expliqué par le Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et donc, au dernier cours, on avait terminé en lisant une synthèse ou un résumé des points dont on a parlé par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et il clarifiait certaines questions par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à date, par rapport aux preuves du consensus des salafs au sujet de l'interdiction d'imiter les kuffars. Et on a lu donc ça, puis il mentionnait également que les paroles des ulama, des imams des mazahib sont également établies dans cette question-là. Les imams des mazahib sont d'accord sur ce principe-là aussi, hein, que yani, d'imiter les kuffars, c'est interdit dans l'islam. Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmad et les autres imams. Et il y a beaucoup de paroles dans les références des ulama de ces madahib-là qui prouvent cette question et ce principe. Donc, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Et donc, on n'a pas besoin de relire encore la parole ou le texte de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là, parce que le Cheikh al-Fawzan, il va y faire allusion et il va expliquer point par point chacune des paroles d'Ibn Taymiyyah à ce sujet. Donc, en lisant la parole de Cheikh Al-Fawzan dans son explication, on va revoir en même temps qu'est-ce que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit sur ce sujet. D'accord, donc on va commencer, inshallah. Cheikh Al-Fawzan, il dit « قَوْلُهُ الْوَجْهُ الثَّالِثُ فِي الْإِقْرَارِ أو فِي تَقْرِيرِ الْإِجْمَعِ مَا ذَكَرَهُ عَامَّةُ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ حَصِلُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الشَّيْخ رحمه الله يوجز نتيجة ما مر من الأقوال الواردة في منع التشبه بغير المسلمين من سائر الكفرة سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو دهريين أو غير ذلك من سائر الكفرة والمشركين فيؤخذ من مجموع هذه الآثار والأدلة قاعدة عظيمة وهي منع التشبه بغير المسلمين لما يجره ذلك من تنقص الإسلام والإسلام كامل فإذا جلبنا إليه عادات وتقاليد ومظاهر وشعارات كفر طغت على شعائر الإسلام واختلط الحق بالباطل وهذا الفعل فيه اتهام للإسلام بأنه ناقص ونكمله بما نجلبه من عادات أهل الكفر وحقيقة الأمر أن الإسلام دين كامل ارتضاه الله لنا فإن حصل من المسلمين نقص أو خطأ فليس هو من قبل الإسلام وإنما هو من قبل تقصير من قصر من المسلمين ولا ينسب إلى الإسلام كما قال الشاعر ولئن كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلم. Donc le cheikh, il explique en commençant, il dit que Ibn Taymiyyah, quand il dit que la troisième aspect dans ce qu'on a expliqué du consensus par rapport aux preuves du consensus, parce que on a déjà expliqué plusieurs fois que le livre, la façon dont Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a divisé, il a divisé le livre Iqtida Sirat al-Mustaqim pour établir la preuve qu'il est interdit dans l'islam d'imiter les kuffars. Et la façon comment il a établi son livre, c'est en premier d'établir les preuves du Coran. Après, de mentionner les preuves de la Sunna. Après, il mentionne les paroles de l'Ijma' des Salaf. Et donc, on a commencé par expliquer la parole des conditions de Omar qu'il a établi pour les gens du livre et les gens de la Dhimma lorsqu'ils veulent rester parmi les musulmans dans un pays musulman. et les conditions que Omar a appliquées sur eux, eh bien, dedans, il y avait le fait qu'ils ne doivent pas imiter les musulmans. Hein? Et ça, on a dit, c'est dans le cas où les musulmans sont en force. On va interdire aux kuffars, aux juifs et aux chrétiens de ressembler et d'imiter les musulmans. Mais dans les cas de faiblesse, où les musulmans sont faibles, eh bien, puisqu'on n'a pas la capacité ou l'autorité d'interdire aux mouchriquins d'imiter les musulmans, parce qu'en général, les gens, ils veulent imiter ceux qui sont forts. Et si les musulmans sont faibles, qui veut les imiter? Personne. Hein? C'est les musulmans qui veulent imiter les kuffars dans ce cas-là. Et donc, à ce moment-là, les musulmans doivent s'accrocher à leur islam et s'abstenir de leur ressembler ou de les imiter et faire ce qu'il faut pour se distinguer d'eux. D'accord? Et ça, on en a parlé déjà. Et là, le cheikh, il mentionne le troisième aspect par rapport à qu'est-ce qui a été dit par rapport au consensus. On avait mentionné les paroles des sahaba par la suite. Et après les khulafa rachidin, on a mentionné la parole de plusieurs parmi les sahaba qui ont confirmé cette règle. Puis maintenant, on a établi les paroles des imams de l'islam qui confirment ce principe qu'il n'est pas permis pour les musulmans d'imiter les kuffars. Et donc, le cheikh, il dit que, en résumé, c'est que la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah maintenant ici, qu'est-ce qu'il fait? Il résume le résultat par lequel on a passé et qu'on a mentionné des différentes paroles qui ont été rapportées au sujet de l'interdiction d'imiter les non-musulmans parmi les différentes sortes de kuffars qui existent, peu importe que ce soit des juifs ou des chrétiens ou des majus ou des dahriyins, des athées ou autres parmi les kuffars et les mushrikins. Donc c'est pas important la catégorie. L'important, c'est que, yani, s'ils sont des kuffars et des mouchriquins, on n'a pas le droit de les imiter. On n'a pas le droit de les suivre. Et on peut tirer de l'ensemble des narrations et des preuves qui ont été rapportées à ce sujet-là, on peut extraire une règle générale et une grande règle qui est qu'il n'est pas permis aux musulmans de ressembler ou d'imiter aux non-musulmans à cause de ce que ça ramène comme diminution et rabaissement de l'islam. Le cheikh, il dit, parce que l'islam, il est complet, l'islam, il est parfait, et si tu ramènes dans l'islam des coutumes et des traditions et des manifestations ou des symboles de kufr, eh bien, ces symboles-là et ces choses-là vont transgresser et vont écraser, ou bien, disons, atténuer les principes de l'islam et les rituels de l'islam ou les symboles de l'islam, et ça va avoir comme conséquence que la vérité va se mélanger avec le faux. Hein? Et en agissant de cette manière, c'est comme si on est en train d'accuser l'islam de ne pas être complet. Hein? De ne pas être complet. Et que l'islam est déficient, ou comme si on disait que l'islam il lui manque quelque chose et il faut le compléter par ce qu'on y rajoute des différentes traditions des gens du kufr. Et le cheikh, il dit que la réalité, c'est que l'islam, c'est une religion qui est complète et parfaite, et Allah l'a agréé pour nous. Et si il y a un manquement ou une erreur qui se produit de la part des musulmans, eh bien ça ne vient pas de l'islam. Hein? Ça vient uniquement du manquement de celui d'entre les musulmans qui a eu un manque ou une erreur. Et on ne doit pas attribuer cette erreur ou ce manquement à l'islam lui-même. Et il cite ensuite un poème d'un poète, un vers de poésie qui dit « Si le musulman, si le péché d'un musulman un jour était son ignorance, alors qu'est-ce qu'on peut accuser l'islam à cause de l'ignorance d'un musulman, hein? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut blâmer l'islam à cause de l'ignorance d'un musulman? C'est-à-dire, si le musulman il est ignorant de sa religion, c'est sa faute à lui, hein? C'est à cause de son ignorance à lui et non pas à cause de l'islam. L'islam est innocent de ça. Et donc, tout ce qui se fait aujourd'hui, que ce soit des actes que des gens font au nom de l'islam. Et par exemple, il y a des koufars qui disent ça. Ils disent aujourd'hui, ah, vous les musulmans, chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, par exemple, vous dites, l'islam n'a rien à voir avec ça, l'islam est innocent de ça. Alors, comment ça se fait que ce sont des musulmans qui font ça seulement? Premièrement, c'est pas vrai que ce sont seulement des musulmans qui font des actes de terroristes. Et il y a plein d'actes terroristes qui sont faits par des koufars. Et peut-être même plus, hein, d'actes de terroristes qui sont faits par des non-musulmans que par des musulmans. Sauf que quand c'est des non-musulmans, on le mentionne pas. Soit on dit pas que c'est du terrorisme, ou soit on dit pas qu'ils sont d'une religion quelconque, autre que l'islam. Ça, c'est ce qu'on constate maintenant dans les médias. Quand c'est un attentat qui se produit, hein, la première chose que les gens attendent de savoir, c'est le nom de la personne. Parce qu'ils veulent tout de suite être capables de faire une accusation ou un lien direct avec les musulmans et l'islam. Et quand on ne dit pas le nom tout de suite, comme par exemple à Toronto, il y a quelques semaines, il y a eu un homme qui a foncé dans une rue avec une vanne, ici au Canada, à Toronto, et il a tué un grand nombre de personnes, une quinzaine de personnes, avec une vanne. Eh bien, les médias, la police n'ont pas tout de suite divulgué, hein, le nom de la personne. Et quand les gens parlaient de cet événement-là dans les réseaux sociaux et dans les médias, des koufars étaient prêts à dire tout de suite, ah oui, ça c'est une attaque. Ça, c'est une attaque terroriste. Hein? Et quand on ne voulait pas dévoiler tout de suite le nom de la personne coupable, les gens disaient, mais pourquoi vous ne voulez pas dire le nom de la personne? Et la police, on dit, c'est pas important de savoir le nom de la personne pour l'instant. Hein? Et eux, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, non, mais pourquoi? Il faut savoir. Et les gens se préparaient déjà à attaquer les musulmans et l'islam et à condamner la religion musulmane encore une fois. Toutefois, lorsque le nom de la personne est sorti, ils ont constaté que c'était même pas un musulman, hein, c'était un nom arménien, et la personne qui avait fait ça, c'était, yani, pour des raisons, yani, par rapport à une, je sais pas si c'était pour une vengeance ou une peine d'amour, je sais pas quoi. Yani, Allah al-Musta'an. Donc, à ce moment-là, ils ont perdu la face parce que, ils étaient prêts à accuser les musulmans, mais ils ont constaté que c'était pas un musulman et que c'était pas fait par une personne qui se disait musulmane. Et là donc, on a vu que tout d'un coup, ils parlaient plus de terrorisme, ils parlaient plus d'attentats, ils parlaient plus d'attaques. Hein, c'est devenu autre chose. Hein, c'est ça. Donc, c'est comme si pour dire, quand c'est pas un musulman, c'est pas du terrorisme. Comme si les musulmans, c'est eux qui avaient inventé le terrorisme. Alors qu'on sait très bien que c'est eux qui l'ont inventé et ceux qui l'ont utilisé contre leur propre société, hein, et qui aujourd'hui l'utilisent, maintenant certains musulmans qui ont voulu les imiter utilisent ces méthodes-là comme étant des méthodes de vengeance ou de je sais pas quoi, mais dans tous les cas, ces méthodes-là sont contraires à notre religion, sont contraires à l'islam. Et c'est ça qui est important. Et qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan a dit ici? Ça s'applique à ça aussi. Que s'il y a un musulman qui fait quelque chose qui est contraire à l'islam, il fait une faute, il fait un péché, il fait une erreur, on ne va pas attribuer cette erreur à l'islam. L'islam, il est innocent de ces erreurs-là. C'est la faute de la personne qui l'a commise, hein, cette erreur. Donc si par exemple un musulman vole, est-ce qu'on va dire l'islam enseigne le vol ou l'islam a permis le vol? Non. Si un musulman commet un crime quelconque, hein, soit il a tué quelqu'un ou bien il a fait quelque chose qui est interdit, on ne va pas accuser l'islam de ça. L'islam est innocent de ça. Ce n'est pas l'islam qui enseigne ça. Au contraire, l'islam même l'a interdit. Et l'islam même punit les gens qui font ce genre de choses. Donc comment tu peux blâmer les musulmans d'avoir commis ce genre d'actes? Hein? Donc l'islam il est innocent de ça. Le cheikh dit ensuite وقوله وما من احد له ادنى نظر في الفقه الا وقد بلغه من ذلك طائفه يعني لا احد من اهل العلم يجهل انه نهي عن مشابهه المشركين وما من احد من العلماء الا وقد بلغه نصوص هذا الامر مما لا يترك مجالا للشك في اننا مطلوب منا مخالفه المشركين وعدم التشبه بهم وهذا مما يبقي للمسلمين عزتهم وقوتهم واستقلال شخصيتهم عن غيرهم. Donc le cheikh il dit, et également Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il continue en disant qu'il n'y a personne qui a un moindre connaissance hein, ou une moindre connexion avec le fiqh. Qu'il y a quelqu'un qui a un petit peu analysé le fiqh et les livres des ulama qui ont écrit sur le fiqh, excepté qu'il a été informé et qu'il a reçu certaines informations sur ce principe-là, c'est-à-dire sur le fait qu'on n'a pas le droit d'imiter les mouchriquins. Donc le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, il n'y a personne parmi les hommes de science qui est ignorant de l'interdiction d'imiter les mouchriquins. Et il dit, il n'y en a personne parmi les ulama excepté qu'il a été, il a reçu ou il a eu connaissance des textes du Coran et de la Sunna à ce sujet-là. Et ça ne laisse aucune place pour le doute qu'il est exigé de notre part de contredire les mouchriquins et de ne pas leur ressembler. Et de ne pas les imiter. Et il dit, c'est ce qui fait en sorte que les musulmans vont garder leur fierté, leur force, leur identité hein, indépendante des autres. C'est-à-dire que leur identité va rester indépendante, ils ne vont pas être dépendants des autres par rapport à leur identité. Et ça, c'est très important. À notre époque, on voit que les gens parlent beaucoup de la question de l'identité. Hein? Les koufars, ils parlent de leur identité. Et ils ne savent même plus qui ils sont. Ils ne savent plus qui ils sont. Et c'est normal qu'ils ne savent plus qui ils sont, parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils vivent. Ils ne savent même pas pourquoi Allah les a créés sur terre. Même certains d'entre eux, ils ne reconnaissent même pas qu'Allah les a créés. Donc, c'est normal qu'ils perdent leur identité. Si une identité est basée uniquement sur une coutume, ou sur un territoire, ou sur un lieu, hein, ou sur une période de l'histoire, eh bien, c'est sûr que ça, c'est des références qui peuvent être facilement changées avec le temps. Hein. Quelqu'un, il a comme tradition, par exemple, je sais pas moi, de manger de la poutine, ou bien, ou bien de manger du fromage, ou de boire du vin, ou de manger du couscous. Ça, c'est des choses traditionnelles. Tu portes certains vêtements. Hein? Il n'y a personne qui peut dire que la façon dont les gens d'aujourd'hui s'habillent et vivent et mangent dans un pays quelconque, si tu recules 300 ans en arrière, ça va être des nourritures différentes, des vêtements différents et toutes sortes de traditions différentes. Parce qu'avec le temps, les coutumes elles changent, elles évoluent, elles se transforment. Mais ça, c'est la différence entre la religion et la tradition et la coutume. La religion, c'est pas la même chose hein, qu'une tradition ou une coutume. La religion, elle ne change pas selon l'époque ou selon le lieu. Et c'est ça la différence avec les coutumes des koufars et des mouchriquins en général. Même les coutumes, parfois chez les musulmans, elles changent selon l'époque aussi et selon le lieu. Et c'est ce qui fait que ces choses-là se transforment. Mais les koufars essaient de faire comprendre parfois, ou essaient de faire penser aux gens que l'islam c'est une coutume et que c'est une tradition et que comme les coutumes humaines, eh bien la religion, la coutume pour eux c'est la religion c'est une coutume et ça peut être modifié et ça peut changer. Donc ils disent par exemple si des musulmans vivent ailleurs que dans les pays musulmans. Par exemple, ils vivent en France, ou ils vivent au Québec, ou ils vivent aux États-Unis, ou en Australie, ou ailleurs. Eh bien, à ce moment-là, ils doivent modifier leurs coutumes et s'adapter à la coutume des pays dans lesquels ils sont. Mais l'islam, ce n'est pas une coutume. L'islam, c'est une aqida, c'est une religion, c'est une conviction, c'est une croyance. Et cette croyance et cette religion, elle est établie et fondée sur des textes, des livres, le Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et donc, ces choses, ces fondements-là, ils ne changent pas selon le temps, ils ne changent pas selon le lieu. Donc, on ne peut pas modifier ces choses-là. Et eux, les kuffars, ils prennent comme référence et comme exemple pour déterminer qui sont les musulmans et qui sont les modèles à suivre parmi les musulmans. Ils prennent en référence dans ces choses-là des musulmans qui n'ont pas étudié l'islam, des musulmans qui n'ont pas étudié la charia. Et donc, eux, pour eux, qu'est-ce qui est l'islam ? C'est ce qu'ils connaissent de leurs traditions et de leurs coutumes dans leur pays, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et étant donné qu'ils n'ont pas étudié la charia, ils ne connaissent pas le Coran comme il faut et les hadiths comme il faut en détail, et ils ne connaissent pas non plus les principes et les règles et les fondements de la charia, alors c'est facile pour les gens de leur faire changer certaines pratiques ou certaines coutumes selon le lieu. Mais quand tu reviens aux ulama de l'islam et aux savants et aux étudiants de sciences, eh bien, pour eux, c'est différent, parce que eux, ils comprennent les fondements de la charia, et ils savent très bien que ces choses-là ne peuvent pas être changées selon le lieu et selon l'endroit. Et que c'est pas des coutumes et des traditions humaines, mais c'est une révélation divine, et qu'elle ne peut pas être changée ou modifiée. De la même manière que les juifs et les chrétiens ont changé leur religion, les juifs ont changé leur religion selon les époques et selon le lieu. Les chrétiens ont changé leur religion selon les époques et selon leur lieu. À chaque 50 ans ou 100 ans, ils font un nouveau concile et puis ils décident de modifier certaines de leurs croyances ou certaines de leurs pratiques. Eh bien, l'islam, c'est pas des religions fabriquées par l'homme. C'est pas une religion fabriquée par l'homme comme le christianisme et le judaïsme qui a été modifié par l'homme depuis des siècles. Non, l'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah lui-même préserve, que Allah lui-même protège, et ce qui fait qu'elle ne peut pas être modifiée ou changée comme les autres religions précédentes. Donc celui qui n'a pas compris ça, c'est pour ça qu'il ne va jamais comprendre pourquoi les musulmans restent accrochés fermement et refusent de modifier quoi que ce soit de leur pratique et de leur croyance religieuse. Donc ça, c'est très important à comprendre. Après, le cheikh il dit: والمقصود أن الله تعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي الإسلام لنا دينا وهذا الدين فيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة لأن الله ما فرط فيه من شيء فعلى ما نترك الأكمل ونركض خلف الأدنى والله يقول وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين نعم نحن الأعلى إن حققنا هذا الشرط أما مجرد الانتساب بدون إيمان وبدون تحقيق للإسلام فهذا هو الهلاك بعينه ومن تحقيق الإسلام تجنب أخلاق الكفار وعاداتهم التي هي خاصة بهم. Donc le cheikh il dit, le but ici, c'est de savoir que Allah a parfait et parachevé pour nous notre religion. Il a complété pour nous sa grâce. Il a parachevé sur nous sa grâce et il a été satisfait comme religion pour nous, comme l'islam, de l'islam comme religion pour nous. Donc il a agréé l'islam pour nous comme religion. Et cette religion, il y a en celle-ci le bonheur pour nous dans cette vie d'ici-bas et le salut dans l'au-delà. Et c'est pour ça que le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien laissé, il n'a rien oublié. Alors dans ce cas-là, pourquoi on va délaisser ce qui est plus complet et plus parfait et courir et marcher derrière ce qui est plus bas? On va laisser ce qui est plus haut pour aller vers ce qui est plus bas? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 139 dans Sourate Al-Imran, et vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Hein? Donc, oui, nous sommes les plus élevés, les plus hauts. Hein? Mais à condition de réaliser et de concrétiser les cette condition. Hein? Cette condition, hein? C'est-à-dire d'être réellement des vrais croyants. Il dit le cheikh, si c'est juste une question de se prétendre ou de prétendre une appartenance sans avoir une foi réelle, hein, de dire moi je suis musulman, mais tu dis juste que tu es musulman avec ta bouche, mais tu pratiques pas et tu fais le contraire de l'islam, hein, et tu réalises pas et tu n'établis pas la réalité de qu'est-ce que signifie l'islam, eh bien ça c'est la perdition en elle-même. Il dit parce que parmi les choses qui font en sorte que tu vas concrétiser ton islam et que tu vas l'exécuter, le réaliser, c'est le fait que tu vas t'écarter des comportements et des coutumes des kuffars qui leur sont particulières. Des coutumes et des traditions et les comportements des kuffars qui leur sont particuliers. D'accord? Ça c'est très important. Akhi Mahdi, si tu peux venir de ce côté. Barakallahu fik. Le cheikh il dit ensuite wa qawluhu wa ana udhakkiru min dhalika nukatan limadhahib al-a'imma aw limadhhab al-a'imma ba'da an dhakara al-adilla min kalam al-khulafa ar-rashidin was-sahaba was-sahabatu al-kiram radiyallahu anhum. يعني يشرع الآن بذكر أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم في منع التشبه بالكفار مما يدل على انعقاد الإجماع على هذا الأمر. Le Cheikh dit, donc maintenant je vais mentionner certaines des paroles des ulama des différents madahib, des différentes écoles de fiqh. Et donc le Cheikh dit, après avoir mentionné les preuves dans les paroles des Khulafa al-Rashidin, les quatre Khulafa qui ont succédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les successeurs bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum, et bien maintenant il passe à la mention des paroles des quatre imams de Ahl Sunnah, c'est-à-dire les quatre plus connus et les quatre plus célèbres des imams de fiqh et de la religion. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad radiyallahu anhum wa yani rahimahumullah. Et donc il dit, on va mentionner leurs paroles et les paroles d'autres également parmi les imams au sujet de l'interdiction de ressembler et d'imiter les kuffars qui vient rajouter la preuve qu'il y a un ijma, un consensus sur cette question là c'est-à-dire un consensus sur le fait qu'il est interdit pour les musulmans d'imiter les kuffars. Il dit wa qawluhu fa min dhalika anna al-asl al-mustaqar fi madhhab Abi Hanifa anna ta'khir as-salat an awwal al-waqt afdal min ta'jilha. Wa lidhalika tajiduhum yusalluna ba'da an-nas amma al-jumhur fa hum 'ala al-'aks حيث يقولون إن الأصل تقديم الصلاة في أول وقتها لأن في ذلك مبادرة إلى الطاعة وتفريغا للذمة إلا في أحوال يستحب تأخير الصلاة فيها لوروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ومثل ما إذا كان هناك غيم فيؤخرون من أجل التأكد من دخول الوقت وإلا فالأصل عند الجمهور أن الصلاة في أول الوقت أفضل. Donc le cheikh il dit, et parmi ces preuves des paroles des imams des madhahib, il y a le fondement qui est établi dans le mazhab de Abu Hanifa que eux ils retardent la prière de son temps. Hein? Ils retardent la prière du début de son temps. Et ils considèrent que de la retarder, c'est mieux que de la faire plus tôt. Hein, ça c'est dans le madhhab des Ahnaf. Si tu vas par exemple dans les mosquées, les Ahnaf, la plupart des pays où ils suivent le madhhab al-Hanafi, je l'ai mentionné dans les cours précédents, c'est le Pakistan, le Bangladesh, hein, et tu vas trouver également dans certains autres pays, mais comme par exemple la Turquie, c'est des Ahnaf aussi. Ben, tu vois que par exemple certaines prières ils les retardent, tandis que les musulmans en général, dans les autres madhahib, ils se précipitent pour les faire au début du temps. Comme la prière de Fajr, par exemple. Tu vas aller dans les mosquées où les Pakistanais, ou les Bangladesh, ou les gens de Matablir, hein. Tu vois que eux, ils vont faire le Fajr plus tard que dans les autres mosquées. Ou bien Salat al-Asr. La plupart des mosquées, ils le font ici, par exemple, à Montréal maintenant, 5h15, 5h30. Tu vas aller dans la mosquée des Ahnaf, ils rajoutent peut-être une heure et demie à la prière de Asr. Donc au lieu de la faire à 5h15, 5h30, ils vont la faire à 6h30, hein, la prière de Asr. Donc ça fait partie des choses dans lesquelles ils ont contredit, hein, ce qui est mieux. Et ils ont contredit la majorité des ulama dans cette question-là. Et donc le Cheikh, il dit, tu vas trouver que par exemple, ces gens-là, ils prient après les gens, après les autres musulmans. Et dans il dit toutefois la position de la majorité des ulama chez les Malikiyas, les Shafi'iyas, les Hanabilas, les autres madhahib, eux ils prient au début du temps. C'est le contraire des Ahnaf. Ils prient au début du temps et ils considèrent que de se précipiter à faire l'obéissance, ça c'est quelque chose qui est mieux, et que de se libérer de l'obligation, hein, de le faire au début du temps, que ça c'est qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est mieux. Sauf dans certains temps où il est recommandé de retarder la prière, dans les exemples dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné une exception à cette règle. C'est-à-dire l'exception à la règle de prier au début du temps. Comme dans le cas qui est mentionné par Abu Huraira radiyallahu anhu dans le hadith de Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il fait très chaud, eh bien, attendez qu'il fasse plus frais pour faire la salat. Parce que la chaleur intense vient du souffle de l'enfer. D'accord ? Donc, il est recommandé, lorsque c'est par exemple les périodes très chaudes de l'année, surtout comme par exemple dans les pays comme en Arabie par exemple, ou dans les pays où il fait très chaud, eh bien, à la prière de Dhuhr par exemple, le soleil est directement au-dessus des têtes, il fait des fois 50 degrés à l'ombre. D'accord ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, attendez qu'il fasse plus frais. Ça c'est un exemple de ce qui est mentionné dans la sunna à ce sujet-là, sur le fait de retarder parfois la prière, ou bien il est recommandé également de retarder lorsque c'est une journée dans laquelle il y a des nuages, pour être certain que le temps est entré. À l'époque, il n'y avait pas d'horloge, il n'y avait pas de cadran comme aujourd'hui. Et les gens se basaient sur la position du soleil dans le ciel pour déterminer le début et la fin des périodes de des différentes prières. Alors, lorsqu'il y a des nuages et qu'ils ne pouvaient pas voir le soleil ou voir l'ombre, alors ils disaient dans ce cas-là, on va retarder un peu plus pour être certain que le temps de la prière est rentré. Hein, pour pas prier puis que finalement c'était pas encore le temps, donc il retardait un petit peu. Et ça c'est des cas d'exception par rapport à la règle générale qui est de prier au début du temps, puisque de prier au début du temps c'est ce qui est meilleur, hein. Et le cheikh il dit wa amma al maghrib bidhat, wa alaykum salam wa rahmatullah, amma al maghrib bidhat fa innaha تصلى في أول وقتها حين تغرب الشمس ويتحقق من غروبها لأن تأخيرها فيه تشبه باليهود وكذلك تأخير الإفطار فإن اليهود لا يؤدون عباداتهم التي علقها الله بالغروب إلا إذا اشتبكت النجوم واشتدت الظلمة ونحن منهيون عن التشبه بهم ومأمورون بتعجيل صلاة المغرب وتعجيل الإفطار عند تحقق الغروب. Le cheikh il dit, en ce qui concerne la prière de Maghrib en particulier, Le mieux, c'est de la faire au début de son temps, lorsque le soleil se couche, et qu'on a vérifié que le soleil s'est réellement couché. À ce moment-là, il faut prier, et le cheikh, il dit que de retarder la prière de Maghreb, il y a dans cela une imitation des Juifs. Parce que les Juifs, ils le retardent, la prière de Maghreb. Et il dit également, il retarde la rupture du jeûne. Il retarde aussi la rupture du jeûne. Il dit qu'ils font ces adorations-là pour eux qui sont reliés au fait que Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché ces adorations-là au coucher du soleil. Eux, ils le font que lorsque les étoiles apparaissent et qu'il fait complètement noir dans le ciel. Donc quand il fait complètement noir, c'est à ce moment-là eux qu'ils brisent le jeûne puis qu'ils font la prière de Maghreb. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été interdit. On a été interdit de leur ressembler là-dedans, c'est-à-dire que pour nous, l'ordre, c'est de se dépêcher à faire la prière de Maghreb au moment du coucher de soleil, lorsque le soleil s'est couché, et l'iftar aussi, c'est-à-dire la rupture du jeûne. On ne doit pas attendre jusqu'à ce qu'il commence à faire noir pour briser le jeûne ou pour rompre le jeûne, mais rompre le jeûne au moment où on a vérifié que le soleil s'est complètement couché, c'est-à-dire que le disque solaire a dépassé l'horizon. À partir de ce moment, le moment pour briser le jeûne, pour rompre le jeûne. Donc on n'a pas le droit d'imiter les Juifs là-dedans. Et parmi les gens qui ont imité les Juifs à ce sujet-là, il y a les Shia al-Rafida. Eux, ils ne rompent pas le jeûne à la prière de Maghreb, ils le retardent, comme les Juifs. Donc ça, c'est un autre exemple de leur contradiction. Et même, il y a un des ulama de l'islam, un des mashayikhs, il a écrit un livre dans lequel il a montré les ressemblances entre les Shia et les Rafid, les Yahoud, les Juifs. Je pense que le livre s'appelle Badlul Majhoud, fi ithbat mushabahat al-Shia lil Yahoud. C'est-à-dire l'effort qui a été dépensé pour montrer la ressemblance des Juifs et des Shia. Dans beaucoup de choses, tu vois la ressemblance entre les Shia et les Juifs. Et c'est pour ça que les ulama, même à la base, ils ont dit les Shia, la secte des Shia, celui qui a la tête, qui l'a fondée ou qui l'a créée, cette secte, c'était Abdullah ibn Saba, qui était juif à la base. Et on dit qu'il s'était converti de façon hypocrite uniquement pour créer des divisions entre les musulmans. Et c'est lui qui était à l'origine de l'apparition de cette secte qu'on appelle la secte des Shia, al-Rafida. Et Abdullah ibn Saba, il a voulu faire avec l'islam la même chose que Paul a fait avec le christianisme. C'est-à-dire essayer de modifier les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Paul a modifié les enseignements de Jésus. Et il a créé le christianisme. D'accord? Donc, ça, c'est. Il y a des détails de ça, bien entendu, dans les explications des ulama qui ont parlé de ce sujet-là. Et j'ai fait 25 cours sur les Shia. Les cours sont sur le site. Donc, si quelqu'un veut avoir plus d'explications, de détails là-dessus, il peut trouver les détails là-dedans, à ce sujet-là. Le cheikh, il dit ensuite, وَأَيْضًا فَإِنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَالَفَ الْمُشْرِكِينَ فِي التَّعَجُّلِ مِنْ مُزْدَلِفَةِ فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَبْقَوْنَ فِي مُزْدَلِفَةِ إِلَىٰ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسِ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاسْتَعْجَلَ وَنَفَرَ مِنْ مُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسِ. Le cheikh dit également parmi les exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi, c'est l'exemple lorsqu'il a contredit les mushrikines, les idolâtres, qui eux, ils retardaient le déferlement vers Mina. Ils quittaient Muzdalifa uniquement après le lever de soleil, pendant le Hajj. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a contredits là-dedans, et lui, il s'est précipité tout de suite après le Fajr, après que l'aube s'est levée, il partait directement vers Mina. Il n'attendait pas le lever de soleil. Donc il a contredit les mushrikines à ce sujet-là. Donc ça fait partie des exemples des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de contredire les mushrikines. Des exemples qui confirment ce principe de ne pas imiter les mushrikines. Le cheikh dit وَقَوْلُهُ وَقَالُوا أَيْضًا يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الطَّاقِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ صَنِيعَ أَهْلَ الْكِتَابِ سَبَقَ الْحَدِيثُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَالطَّاقُ هُوَ الْمِحْرَابُ وَهِيَ تَسْمِيَةٌ عَامِيَّةٌ وإلا فالمحراب في الأصل هو المصلى قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني مصلاها الذي اعتزلت عنهم للصلاة والعبادة فيه فالمراد بالمحراب هو مكان العبادة والطاق عند اليهود هو المذبح في الجدران على شكل دائرة وهذه الدائرة يصلي فيها الإمام وهذا مكروه لما فيه من التشبه باليهود لأنهم يخصون هذا المكان ويظنون أنه أفضل ونحن نقول الطاق إنما يعمل لأجل معرفة القبلة فقط لا لأجل أن يصلي فيه الإمام أو غير الإمام ويعتقد أن فيه البركة. Le Cheikh il dit également parmi les choses qui ont été mentionnées dans des ulama du Madhhab al-Maliki, c'est qu'il est détestable de se prosterner dans At-Taq. Et At-Taq, il a expliqué que ça fait partie de qu'est-ce que font les juifs et les chrétiens. Et c'est quoi At-Taq? C'est l'ouverture qui est dans le mur de la mosquée ou des lieux d'adoration. Qu'est-ce que je veux dire par l'ouverture? C'est-à-dire la forme, le demi-cylindre, hein, qui est un creux, une ouverture dans le devant de la mosquée, et dans lequel se tient l'imam. Eh bien, le cheikh, il explique que les gens aujourd'hui l'appellent al-mihrab. Et ça, c'est le langage commun. Parce qu'en réalité, dans la langue arabe, al-mihrab, c'est pas cet endroit-là. C'est pas cette chose, cette construction-là que les gens ont inventée dans le mur. Mais plutôt al-mihrab, comme Allah il le mentionne dans le verset 38 dans sourate Al-Imran, kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab, chaque fois que Zacharie il rentrait dans l'endroit où Maryam priait, hein, eh bien le cheikh il explique que le terme mihrab ici ça veut dire c'est son lieu de prière, l'endroit où elle fait ses adorations. Donc à la base le mot mihrab signifie et désigne un lieu de prière, un endroit pour faire l'adoration. Et donc, maintenant les gens l'emploient pour désigner l'endroit où l'imam se tient, où il y a le creux dans le mur, mais ça c'est une utilisation qui n'est pas une utilisation correcte du mot mihrab. Parce qu'à l'origine, à la base, le mot mihrab ça ne signifie pas cette, et ça ne désigne pas cette chose-là. À la base, on a dit al-mihrab, c'est l'endroit où on fait l'adoration. Et at-taq, c'est ça en fait qui est la place, hein, l'autel, hein, là où l'endroit dans le mur où le rabbin ou bien le prêtre, il se tient pour diriger la prière, hein, diriger la messe ou des choses de ce genre. Et c'est une ouverture qu'ils font dans le mur ou des choses de ce genre. Et le cheikh il explique que de prendre cet endroit-là ou de cette chose-là pour prier, c'est quelque chose qui est détestable pour les musulmans parce que il y a dans ça une imitation des juifs et des chrétiens. Et de prendre cet endroit-là en particulier pour prier en croyant que c'est un endroit qui est meilleur ou qu'il y a une bénédiction dans cet endroit-là, ça c'est quelque chose qui est incorrect. Ça fait partie des innovations. Et donc il dit, tandis que si on le fait uniquement pour désigner l'endroit de la Qibla, la direction de la Qibla, c'est-à-dire dans quelle direction on doit prier, non pas pour prier dedans, mais pour montrer que c'est par là que se trouve la Qibla, alors dans ce cas-là c'est, disons c'est excusable, mais si c'est pour prier dedans, dans ce cas-là ça c'est, hein, c'est contraire à la Sunna. Et le Cheikh dit, « قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ سُجُودُهُ فِي الطَّاقِ وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد يعني أن مذهب أحمد يقول بكراهة الإمام في الإمامة في الطاق أي في المحراب فتكره إمامة الإمام يعني وهو داخل المحراب، لأنه بذلك يختفي عن المأمومين وعن الذين عن يمينه ويساره، ولأن فيه تشبها بأهل الكتاب. وقوله بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق، الظاهر أن صحة العبارة من غير الطاق. نعم، بخلاف donc le cheikh il dit ici contrairement à ce que si contrairement au fait que la prie la le personne prie et se prosterne ailleurs que dans le l'ouverture ou le trou qui est dans le mur. Il dit ça c'est la position également qui est apparente dans la dans le madhhab de l'imam Ahmad. C'est-à-dire que l'imam Ahmad il considère que c'est détestable pour l'imam de prier dans le taq ou bien dans le mihrab. Il dit c'est détesté de prier dans cet endroit-là car l'imam se cache à l'intérieur et les gens qui sont à sa droite et à sa gauche ne le voient pas. Donc ils peuvent pas le suivre correctement. Et il y a également dans ça une ressemblance aux gens du livre, c'est-à-dire aux juifs et aux chrétiens, et donc c'est pour ça que c'est interdit, contrairement au fait que la personne se prosterne ailleurs que dans At-Taq, c'est-à-dire il se recule, il prie pas dans le trou, mais il prie yani ailleurs que à l'intérieur de ce trou-là. Dans ce cas-là, c'est correct. Parce que dans l'expression, il y avait une parole qui le cheikh il l'a corrigée par la suite. Donc c'est ça que ça veut dire. Naam. Donc ça c'est ce qui vient conclure ce sujet. Je pense que nous on va s'arrêter ici. Naam, tu voulais dire quelque chose? Ouais, barakallahu fik. Ça aussi, ça fait partie des points aussi que les ulama ils ont mentionné, c'est que at-taq en général ça coûte très cher. C'est une des pièces qui coûte le plus cher à fabriquer pour les architectes et les artisans, et les gens qui font construire des mosquées, ils dépensent des grosses sommes pour justement faire construire ce genre de pièces, hein, le mihrab qu'on appelle le creux là qui est en avant de la mosquée. Et donc c'est des dépenses inutiles et ça fait partie des innovations. Donc c'est yani la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'avait pas de ce genre de choses. Il n'y avait pas de trou dans le mur dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est quelque chose qui a été rajouté plus tard par des gens pour imiter les juifs et les chrétiens. C'est pour ça que c'est détestable. Non, c'est interdit d'imiter ces gens-là. Donc on va s'arrêter ici, puis la semaine prochaine on continuera. Non, pas la semaine prochaine, parce que là c'est vrai, je voulais mentionner ça justement, Inch'Allah, parce qu'on va faire un programme pour le Ramadan. Et étant donné que le Ramadan ça commence cette semaine, c'est soit mercredi ou jeudi le Ramadan qui débute, donc on va cesser le programme actuel tel qu'il est et on va suivre maintenant un nouveau programme pour les cours qui va être spécial pour le Ramadan. Et je vais envoyer le nouvel horaire des cours probablement pendant la journée demain, Inch'Allah, et je vais faire savoir aux frères et à tout le monde, Inch'Allah, le nouveau programme pour le Ramadan. Et il y aura probablement des cours de tafsir. Ça c'est, on va continuer le tafsir pendant tout le Ramadan, ça c'est certain. Puis on verra aussi, peut-être qu'il y aura d'autres sujets, mais ça c'est pas encore déterminé. Et il y aura des cours pendant la semaine et des cours le week-end, et bien entendu ce sera plus après le Maghreb, ça sera pas après le Maghreb, parce que après le Maghreb les gens en général ils vont faire l'iftar à la maison et tout, donc il y aura pas de cours après le Maghreb, mais ce sera peut-être pendant la journée, et puis on va voir si on peut faire quelque chose à un autre moment de la journée, peut-être après la prière de l'aube, après la prière de Fajr, Inch'Allah, peut-être un petit rappel quotidien, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, Inch'Allah. Oui, le samedi et dimanche, ça, il y aura des cours, il y aura des cours pendant ces journées-là. Peut-être même qu'on ferait après l'Asr le samedi dimanche, puis on ferait peut-être un petit iftar à la mosquée entre nous, hein, briser le jeûne entre nous, amener de la nourriture, puis manger ensemble. Si on voit que les frères sont intéressés à faire quelque chose comme ça, eh ben on pourra faire ça le samedi et dimanche, inshallah. D'accord? Donc, khair, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et après le Maghreb, on va faire tafsir, inshallah, al-Baqara. Et puis, ce sera donc le par rapport au cours, le dernier cours qu'on va faire entre le Maghreb et l'Isha. Là, à partir de demain, on arrête les cours, l'horaire des cours actuels, on arrête. Puis, on va reprendre avec nouvel horaire au courant de la semaine, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.